Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
La ville de Paris en France s'est vue infliger par l'État une amende de 90 000 euros pour avoir nommé trop de femmes au poste de direction. L'amende concerne l'année 2018 pour non-respect d'une disposition sur la parité supprimée depuis. Cette amende est absurde, injuste, irresponsable et dangereuse, a estimé la maire Anne Hidalgo, précisant qu'elle irait personnellement porter le chèque avec les 11 femmes cadres de sa mairie. Ce qui est très beau avec la bureaucratie, c'est qu'elle ne connaît absolument pas le discernement et donc elle ose tout, a moqué Anne Hidalgo, dénonçant le retard de la France dans la promotion des femmes aux postes de responsabilité. Trois médecins-chefs intervenant dans les médias sur la Covid-19 ont signé une tribune dans la revue The Lancet pour dénoncer le cyberharcèlement dont les expertes en santé sont victimes. Au-delà du manque de représentation des femmes, il nous semble particulièrement préoccupant que le harcèlement soit une réalité dans le milieu scientifique, pointe la Française Karine Lacombe et ses consoeurs suisses Caroline Samer et Alexandra Calmi, affirmant avoir été victime de menaces en tout genre, dont des déclarations diffamatoires, harcèlement et attaques misogynes. Alors que la faible présence d'expertes sur les plateaux est dénoncée depuis le début de la crise sanitaire, elle réclame une meilleure préparation aux interventions publiques et des garanties de soutien, rappelant que les femmes médecins sont plus souvent dénigrées que leurs collègues masculins. Le nouveau gouvernement lituanien, dirigé par la première ministre Ingrida Simonite, qui a prêté serment le 11 décembre 2020, inclut 7 femmes, dont une aux finances, sur 15 ministres, contre une seule dans le gouvernement précédent. Selon l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, le nouveau cabinet lituanien est l'un des plus équilibrés entre les genres dans l'Union européenne. Cette transformation montre que le concept d'égalité n'a pas toujours besoin d'évoluer par petites étapes. La Lituanie est passée de l'une des plus faibles proportions de femmes au gouvernement à l'une des plus élevées, a déclaré la directrice de l'Institut Karlien Schiele. Le ministre israélien de la Justice a signé le 16 décembre 2020 l'ordre d'extradition vers l'Australie de Malka Leifer, une ancienne directrice d'école juive ultra-orthodoxe, accusée de dizaines d'agressions contre des élèves d'une école qu'elle dirigeait à Melbourne. Selon les médias australiens, elle fait face à 74 chefs d'accusation d'abus sexuels sur des petites filles. Elle s'était enfuie d'Australie en 2008 après des allégations à son encontre et vivait dans une colonie de Cisjordanie. les accords d'extradition signés par Israël doivent être respectés et quiconque cherche à fuir la justice ne trouvera pas refuge en Israël, a indiqué la Cour suprême.
Parole de femme.
Au Sénégal, de plus en plus de jeunes femmes mettent en place leur entreprise ou un business pour subvenir à leurs besoins, une tendance généralement dictée par trois facteurs: le manque d'emploi, les salaires dérisoires dans les domaines où elles sont diplômées, ou tout simplement la passion. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des couloirs des hôpitaux aux urgences, en passant par les salles de soins et d'hospitalisation, Maïmouna Sall a servi pendant plusieurs mois dans les structures sanitaires avant de se résigner à abandonner sa vocation initiale pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour échapper au salaire dérisoire qu'offre son métier, elle s'est spécialisée dans la confection et la vente de savons et de jus de fruits.
J'ai fait des études d'infirmière d'État, mais ce travail ne me permet pas de subvenir à mes besoins. Donc j'ai arrêté pour entreprendre ce business qui, tant bien que mal, me permet de joindre les deux bouts. Certes, au début, ce n'était pas facile parce que dans le marché, l'offre dépassait de loin la demande. Chose qui n'est pas facile, on s'est accroché pour avoir une clientèle fidèle car, quoi qu'on puisse dire, nos savons et nos produits de fruits sont de bonne qualité et on les fait avec beaucoup de soin.
Le manque d'emploi également conduit beaucoup de jeunes filles vers l'entrepreneuriat. Nadia Fall est l'une d'entre elles. Après des études en transit, elle n'a jamais pu avoir un travail qui correspond à son profil.
Parce qu'il est difficile de trouver du travail, j'ai monté ce business de vente de voitures avec un ami qui vit en France. Au début, ce n'était pas facile parce qu'on a commencé avec la vente de scooters et de pièces détachées. Après, quand ça a commencé à marcher, on a investi sur la vente de voitures. J'avoue qu'au début, ce n'était pas facile avec le domaine qui est dominé par les hommes parce que nous sommes marginalisés. Mais on en rend grâce à Dieu. On fait de notre mieux pour que ça marche, pour subvenir à mes besoins et ceux de ma famille.
Le mariage entre la nécessité et la passion, les jeunes filles savent également le faire, comme le montre l'expérience de Safia Ali.
Je n'ai pas pu faire d'études poussées, car j'ai été très tôt appelée à aider ma mère en tant qu'aînée. Devant ce dilemme assez compliqué, j'ai décidé de chercher une source de revenus qui me passionne, et c'est comme ça que j'ai commencé la couture. Aujourd'hui, je m'en sors assez bien avec les tenues que je confectionne, et mes bénéfices me permettent de prendre en charge les besoins de la famille et la scolarité de mes frères et sœurs. Je ne regrette pas du tout d'avoir laissé des études pour devenir soutien de famille.
L'entrepreneuriat féminin est de plus en plus fort avec des jeunes filles qui n'attendent pas le soutien de l'État pour se lancer. Très souvent, leur business est financé sur fonds propres ou via des prêts privés, l'essentiel pour elles étant de subvenir à leurs besoins avec une autonomie totale. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
Le début de la diversification alimentaire pour la petite enfance constitue une période d'angoisse pour les parents, avec son lot de questionnements. Que donner à son enfant? Des purées faits maison ou de petits pots proposés dans de grandes surfaces ou pharmacies? La start-up Bébé Green Togo allie les deux approches. Notre correspondante Alomé Kayilosson nous introduit dans l'univers des saveurs gastronomiques pour les tout-petits.
C'est un jour de production à Bébé Green Togo. Les fruits et légumes lavés et coupés en petits morceaux passent au mixeur. Ils sont ensuite mis dans des pots préalablement stérilisés et sont immédiatement mis dans le réfrigérateur. La production ainsi faite, le service de livraison prend le relais. Il a 24 heures pour écouler cette production. Bébé Green Togo ne produit qu'en petite quantité pour le moment et des fois sous commande. Cette jeune entreprise vient soulager les parents dont les nourrissons doivent passer le cap de la diversification alimentaire. La structure propose des produits faits maison qu'elle commercialise. Laetitia Atou, directrice de Bébé Green Togo.
Je me suis dit pourquoi ne pas prendre les fruits, les légumes qu'on a au Togo, les transformer en purée et en compote pour donner aux enfants. Donc voilà, je suis allée au marché, j'ai pris des fruits et j'ai commencé par faire des compositions. J'ai commencé par le faire avec mon dernier bébé Donc je me suis dit, d'autres mamans dans mon cas auront les mêmes soucis. Et c'est là que j'ai voulu commercialiser. La gamme est en train d'être très variée. Présentement, on peut avoir 12 compositions avec Bébé Green.
De bouche à oreille et grâce aux réseaux sociaux, Bébé Green Togo se fait sa petite clientèle. Liberté Arodo, mère d'un garçon de 9 mois.
J'aime me promener sur les réseaux sociaux et c'est là que j'ai découvert la page de Bébé Green. Mais bon, comme je suis également maman d'un petit garçon de 9 mois, j'ai voulu essayer parce que dans un premier temps, je suis de nature très très sélective en matière de bouffe. Surtout concernant mon bébé, j'aime plutôt privilégier les légumes, les fruits dans son alimentation et donc ça tombait à pic.
Bébé Green Togo se veut une entreprise sociale. Elle organise des séances de causerie débat animée par des nutritionnistes et pédiatres pour sensibiliser les mères sur l'alimentation de leurs enfants. Nous retrouvons la directrice de Bébé Green Togo, Laetitia Atou.
Je me suis engagée parce que j'ai fait l'expérience et j'ai vu que mon dernier bébé qui a goûté à tous ces produits naturels, j'ai vu le développement qu'il a eu. Donc du coup, je sensibilise les mamans à s'adapter au naturel, à prendre des produits que nous avons au Togo. On a tout dans ces aliments que nous avons au Togo. Moi, je me dis que avec ces produits, quand on le donne au bébé, ça peut lutter contre la malnutrition.
Le mieux, c'est de privilégier la santé du bébé en optant pour des produits sains, recommandent les professionnels de la santé. Pour la pédiatre Dédé Hila, c'est bien les purées faites maison, mais c'est encore mieux avec des produits bio.
Les légumes que nous avons dans nos marchés, qui sont produits dans les jardins, est-ce que ces produits sont contrôlés? C'est vrai, on va dire c'est fait maison, mais ce que nous achetons souvent n'ont pas été analysés, ne sont pas bio pour la plupart. Nous les donnons aux enfants en se disant je les fais moi-même. Sauf qu'avec l'utilisation intensive des engrais et autres, est-ce que ces produits-là sont sains? Maintenant, quand on est sûr de ce qu'on achète, je pense que c'est toujours mieux de faire à la maison parce qu'on fait à partir de nos habitudes alimentaires, on sait ce qu'on introduit au niveau de l'enfant et c'est à encourager quand on peut obtenir des légumes et des fruits vraiment bio.
Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
La Fédération internationale de tennis a changé le nom de la Fed Cup, qui est désormais la Coupe Billie Jean King, du nom de l'ancienne numéro 1 mondiale américaine, ayant remporté 39 titres du Grand Chelem. C'est la première fois qu'une compétition mondiale se voit attribuer le nom d'une femme. Cette figure héroïque, ambitieuse, a consacré sa vie à l'égalité des genres dans le sport, notamment en créant la Women's Tennis Association, que de nombreuses personnes ont tenté d'étouffer dans l'œuf. Après le premier tournoi de la Fed Cup en 1963, King a levé le trophée à 10 reprises, un record historique. En 1973, elle a remporté en 3-7 un match contre Bobby Riggs. En entrant sur le court avec un homme, King a inscrit à jamais la lutte féministe au-delà de l'arène sportive. Ce match télévisé avait été suivi par 90 millions de personnes dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes handicapées représentent 15% de la population dans le monde. Lors de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre dernier, dont l'objectif est de promouvoir leurs droits et leur bien-être, Abdourahman Dia a demandé au fondateur de l'ONG Jeunes vivant avec handicap, Eloi Kingezé, dans quelle mesure la pandémie de coronavirus avait affecté la communauté des handicapés.
Déjà, à la base, ont buté des moyens de déplacement, même la façon de se trouver, de quoi manger, c'était pas facile pour eux. Et certainement ici à Kine, il y a des gens qui sont déjà habitués à sortir chaque jour pour aller se trouver de quoi manger. Et avec tout ce qui est arrivé, Corona et tout, ça a vraiment perturber certaines vies des personnes handicapées. Et on a regretté aussi quelques-uns qu'on a perdu aussi pendant ces moments. Mais on a quand même vécu avec. Et nous, en tant que ONG, on est venu quand même en aide à quelques structures, quelques personnes handicapées qu'on a aidées par des vivres, des gels pour se protéger, des masques. Et nous continuons toujours à lutter pour mettre fin à cette propagation.
Alors, l'exclusion dans le recrutement, dans l'éducation, c'est un peu quelque chose que les personnes handicapées vivent, mais avec le développement du télétravail et du téléenseignement, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité aussi?
Oui, exactement. C'est ce que je dis. La pandémie nous a appris des bons côtés, des choses qu'on nous semblait oublier. Et aujourd'hui, je me dis, en tant qu'un handicapé, aujourd'hui, avec ce qu'on a eu à vivre, télétravail et tout, ça ne fait pas encore exclure une personne handicapée parce qu'il faut qu'il puisse venir au bureau, travailler avec nous et voir son handicap, mais plutôt d'être à la maison devant son ordi. Il peut toutefois travailler et rendre service à la société.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
La capitale gabonaise Libreville a abrité un programme de scolarisation pour les orphelins et autres enfants issus de milieux défavorisés. Ce programme était parrainé par un jeune artiste connu sous le nom de Général Christ 12 étoiles, qui entend lutter contre l'exclusion sociale et scolaire des enfants vulnérables. On le retrouve dans un reportage de notre correspondant Ismaël Obianze, qui a notamment rencontré la fondatrice du Centre des Bons Samaritains, Célestine Wanga.
Est-ce que quelqu'un peut nous donner un exemple des homonymes?
La leçon du jour porte sur la maîtrise des homonymes. Enseignant de français, Georges Mesu fait partie de la dizaine de bénévoles du programme Zéro Découragement Éducation Plus. Il organise une séance de remise à niveau à l'intention des pensionnaires de la maison d'accueil Les Bons Samaritains du quartier Kingélé à Libreville. L'échange de quelques heures vaut aussi pour une prise de contact avec ce petit monde qu'il découvre à l'instant.
Un enseignant, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là de pouvoir étudier les enfants, même s'il ne les connaissait pas.
Fondée en 2017 par Célestine Wanga, simple femme au foyer, ce centre héberge aujourd'hui une vingtaine d'enfants en difficulté sociale dont les parents sont connus ou pas de la responsable des Bons Samaritains.
Il y a d'autres que je ne connais pas, ni la mère ni le père, je ne connais pas. Mais il y a d'autres, je connais la grand-mère, l'oncle. Il y a d'autres, je connais qui sont nécessaires, qui ont des mères et des pères, qui n'ont aucun revenu, alors qu'ils sont là, je ne sais pas les chasser. Non.
Autre lieu, autre orphelinat. Nous allons au nord de Libreville, à 5 km de Kingélé, pour une immersion dans l'univers des petits anges de la deuxième cité des logements sociaux d'Angondji. Parmi les enfants qui y séjournent avec le rêve d'une vie d'adulte accomplie, nous rencontrons Ruth Owanga, 17 ans, une bonne élève de la classe de première, admise cette année en terminale.
Je veux être comptable, mais après cela, faire des dons, faire du bénévolat, ouvrir des orphelinats, aider même les personnes qui sont dans les hôpitaux.
Après avoir perdu sa mère à l'âge de 9 ans, Ruth a connu des moments difficiles avec un père sans revenu. Sa situation a suscité une chaîne de solidarité du voisinage avant d'être enfin conduite au centre Les Petits Anges. Comme des centaines d'autres jeunes, Ruth est bénéficiaire du projet que porte le jeune danseur social international, Francelle Christelle Ngunga Djuratari, plus connu sous le pseudonyme de Général Christ.
Je constatais que l'aide qu'on apportait plus aux enfants, c'est vrai qu'il y a des personnes de bonne foi qui apportent pendant la période scolaire de fourniture aux enfants. Mais aujourd'hui, après ça s'arrête là. Entre-temps, aujourd'hui, moi je pense que l'éducation du jeune Gabonais, c'est une priorité dans la nation. Et les jeunes qui sont dans les centres aujourd'hui, vous allez poser des questions aux jeunes lorsque vous finissez les études, là où vous allez voir que c'est le chômage comme tout le monde.
Si les moyens le lui permettent, Général Christ souhaite atteindre d'autres grands centres urbains du Gabon pour être au chevet d'autres enfants en difficulté. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique. Yeah.
nous les femmes, croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Entre parenthèses.
À Nairobi, la population des quartiers pauvres de Kibera, le plus grand bidonville de la capitale kényane, a été durement touchée par l'impact économique de la pandémie de coronavirus. Pour soutenir les personnes démunies, l'association Adopt a Family met en relation des familles aisées avec les moins fortunées. L'initiative a permis d'apporter secours à plus de 400 familles. Je relate ici un reportage de Raël Ambouor, correspondante de VOA Afrique à Nairobi. Avant la pandémie, Annette Okumu, mère de 6 enfants, gérait une pâtisserie et son mari travaillait comme peintre. Quelques jours après l'annonce du premier cas de Covid-19 dans le pays, les ventes de gâteaux ont chuté et son mari n'avait plus de travail. Un de leurs enfants, né avec la drépanocytose, a commencé à tomber malade car il n'avait plus de quoi acheter ses médicaments. Madame Okumu a aussitôt appelé et pris rendez-vous avec le responsable de l'association.
En ce moment, il n'y a pas de nourriture, pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de souper pendant 2 jours. Je me demandais ce qui arriverait ensuite. Vais-je perdre mon enfant? Et alors, tard dans la nuit, j'ai vu Adopt a Family sur les médias sociaux. Et c'est là que j'ai décidé. Assez, c'est assez, je dois parler.
Moses Omondi a fondé Adopt Family au début du confinement en mars.
De nombreux employeurs ont dû fermer boutique afin d'adhérer aux directives. Il y avait des gens qui dépendaient des petits métiers et travaux manuels. La plupart d'entre eux ont perdu leur emploi. Je me suis donc demandé ce que je pouvais faire qui puisse adhérer à la directive du gouvernement. C'est alors que j'ai eu l'idée d'une famille qui subviendrait aux besoins d'une autre.
Job Bitang, qui est monteur vidéo à Nairobi, a été mis en contact avec Annette Okumu et le jour suivant, la famille a pu bénéficier d'un premier repas.
J'ai décidé de soutenir une famille en leur donnant un voucher.
J'ai décidé de soutenir une famille en lui donnant un bon alimentaire et Moses m'a dit que ce bon pouvait nourrir la famille pendant une semaine, alors la deuxième semaine j'en ai donné un autre. Et beaucoup de gens sont venus parce qu'ils savaient que je faisais partie du programme. J'étais parmi les premières personnes qui ont rejoint son équipe.
Début mars, le gouvernement a annoncé un programme de transfert d'argent pour les plus démunis, mais de nombreux habitants du quartier disent ne pas avoir reçu cet argent. Nehemia Amwosha, un responsable de la zone de Gatwekera, dit qu'ils font de leur mieux et que des initiatives personnelles comme celle d'Omondi permettent de combler les lacunes.
Le gouvernement apporte également une aide supplémentaire aux personnes vulnérables qui reçoivent déjà une aide publique, telles que les personnes âgées, les orphelins ou les veuves. Il a très bien fait, mais nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons besoin de partenaires. C'est pourquoi nous pouvons dire que les gens comme Omondi sont les meilleurs au monde.
En moins de 3 mois, Adopt Family a relié 460 familles de Kibera. Outre les transferts d'argent direct, l'association mène des campagnes de distribution de nourriture et gère un programme d'alimentation pour les enfants du quartier. Programme dans lequel Annette Okumu s'est engagée comme cuisinière bénévole. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact, bon courage et à très bientôt.
Arrête.